vous y restez 4 ans et vous gagnez plein de fric. Voilà. Et Moscovici dit, et si je vais au trésor, Strauss-Kahn lui répond, c'est un peu moins bien, mais là aussi, vous faites 4 ans et vous gagnez du fric. Voilà, on sait maintenant à quoi servent ces écoles prestigieuses. Il y a quand même une question qu'on peut se poser. Ce que vous dites là, on le sait quand même, si on ne le sait pas, on le sent. Pourquoi, face à ça, si peu de rébellion ? Vous citez aussi, vous avez des avalanches de chiffres sur les inégalités, sur les parachutes dorés, enfin sur ce qu'on voit à longueur de colonne, sur ces inégalités monstrueuses qui devraient nous indigner, pour reprendre le titre du bouquin de Stéphane Hessel. Pourquoi, face à ça, si peu de rébellion ? Faut-il que la propagande soit si bien faite ? Faut-il que la peur soit si grande ? Pourquoi est-ce qu'on se rebelle si peu ?
Il y a d'abord le fait que le succès du capitalisme dans les 30 dernières années, ça n'a pas été seulement de faire en sorte qu'il y ait cette montée énorme des inégalités de manière presque insensible, mais aussi de généraliser en quelque sorte la culture individualiste. C'est-à-dire de faire en sorte que l'individualisme, il est présent depuis très longtemps, il est au cœur de la civilisation occidentale, depuis au moins la Renaissance, mais enfin, il était toujours en quelque sorte tempéré par les sentiments de solidarité, que ce soit anciennement celui des villages, des corporations, et puis de l'Église, et puis à partir du 19e siècle par le mouvement ouvrier, et puis ça s'incarnait dans des structures de solidarité collective importantes comme la sécurité sociale, comme les pensions, comme les retraites, etc. Eh bien, ce qu'a réussi dans les 30 dernières années le capitalisme, c'est à généraliser l'idée que l'individualisme est tout, et en quelque sorte représente l'ensemble de la psyché humaine. Donc on est dans une culture beaucoup plus individualiste que ça n'était le cas il y a 30 ans. Et donc on a perdu ces habitudes de solidarité, on a souvent même perdu, c'est en train de revenir heureusement, mais on s'est laissé convaincre qu'on était d'abord des individus isolés les uns des autres. Et la deuxième raison, je dirais, c'est, on en a parlé un petit peu, c'est que ce travail des médias lancé par Bernays et par ces gens-là a pris, avec l'instrument de la télévision, notamment, une puissance absolument considérable. C'est-à-dire que des jeunes gens, nous, on est encore peut-être d'un certain âge, Daniel Mermet, et moi, je suis peut-être un poil plus jeune, mais malgré tout, on a encore vécu des époques où la culture politique se faisait au bistrot, par les discussions qu'on entendait de nos parents, dans la rue, dans les lycées, je ne sais où. À partir des années 1970-80, en France, et ça a été le cas antérieurement aux États-Unis, avec peut-être 15 ans d'avance, la culture politique est d'abord passée par la télévision. Et la télévision, c'était quoi ? C'était pas des débats sur les retraites, sur la démocratie, sur l'inégalité, sur la justice, etc. C'était de la publicité, des feuilletons, des choses comme ça. Et donc, le deuxième aspect, la deuxième raison, c'est aussi qu'on est imprégné de, j'allais dire, 30 ans de non-culture politique, d'absence de débat politique. Et en revanche, d'une imprégnation d'un discours qui est extrêmement puissant, qui est non seulement le discours de la dépolitisation, mais aussi le discours de la publicité, le discours de la consommation, le discours de la croissance, le discours de consommer ce discours-là. Le discours des objets, en quelque sorte.
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Sur la question de l'individualisme, j'ai envie de revenir là-dessus, parce qu'on a eu, depuis juin, mais enfin surtout au mois d'octobre, en France, une série de manifestations sur la question de la réforme de l'âge de départ à la retraite. On a vu 7, 8 manifestations successivement, où on a eu 2 à 3 millions de